Universel, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la voix de l'Amérique. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 octobre en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, nouvelle violence en République centrafricaine. Au moins 30 morts dans la région de Bakala, dans le centre du pays.
La population sort dans la bourse, ils se sont réfugiés dans la bourse. Certains sont rendus à Bombay.
Dossier Ebola, l'OMS appelle à concentrer la lutte dans les trois pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest.
Au Canada, le Premier ministre Stephen Harper appelle à la vigilance après les attaques d'hier à Ottawa.
Plus de 500 morts parmi les djihadistes de l'État islamique, bilan des frappes de la coalition le mois dernier en Syrie et en Irak.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées mardi et mercredi dans l'attaque d'un village de la région de Bakala en République centrafricaine. Les habitants de ce village, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Bombari, dans le centre, se sont réfugiés dans la ville. Jocelyn Azwangia est journaliste à la radio communautaire Linga.
C'est à 30 km aussi de la ville. Donc, ils ont tué 100 personnes et il y a plusieurs blessés. Donc, la population sort dans la pousse. Ils se sont réfugiés dans la boue. Certains sont encore là. Se sont rendus à Bombay. Ils sont dans le site de Notre-Dame de Victoire. Certains sont dans le site de déplacés au niveau de la gendarmerie. Donc, site de Miska. D'autres sont au site de Sangari. Ils sont là pour construire leur camp pour habiter, quoi.
Le journaliste Jocelyn Azwanja, joint à Bombari.
L'Organisation mondiale de la santé estime que la lutte contre le virus Ebola doit rester concentrée sur les trois pays d'Afrique de l'Ouest où l'épidémie a fait environ 4 900 morts. L'agence onusienne l'a fait savoir aujourd'hui à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence à Genève. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
Le comité d'urgence a fait savoir que le dépistage à la sortie des pays touchés par l'épidémie demeure critique et a recommandé que la surveillance continue dans les aéroports, les ports et les principaux postes frontaliers terrestres. L'OMS note qu'une attention particulière devrait être accordée aux besoins des personnels de santé. La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a appelé ce jeudi à un contrôle strict des frontières avec la Sierra Leone et la Guinée afin d'empêcher, dit-elle, une résurgence du virus Ebola dans les rares régions où l'épidémie recule. À Bruxelles, l'Union européenne a annoncé une contribution de 31 millions de dollars pour la recherche médicale. Le gouvernement américain a ordonné de son côté que les passagers en provenance du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée soient dorénavant suivis pendant 21 jours à compter de lundi prochain. Ces voyageurs devront au quotidien contacter les autorités et signaler toute fièvre ou autres symptômes suspects. La Corée du Nord, quant à elle, a décidé de fermer ses frontières aux touristes étrangers par crainte de laisser entrer le virus Ebola dans le pays.
Nouvel attentat dans le nord du Nigeria. Une bombe a explosé la nuit dernière dans une gare routière. Bilan au moins 5 morts et 12 blessés. Le point avec Eddie Isanko.
L'attaque qui s'est produite à Azare dans l'état de Bauchi n'a pas été revendiquée, mais cette région a régulièrement été la cible de Boko Haram au cours des 6 derniers mois. L'organisation islamiste s'en prend notamment aux banques, aux postes de police et aux écoles. D'après la police, certaines victimes sont méconnaissables tant leurs brûlures sont importantes. Les gouvernements qui avaient annoncé un accord de cessez-le-feu avec les djihadistes attribuent cette dernière attaque à des éléments incontrôlés de Boko Haram. Des collaborateurs du président nigérian Goodluck Jonathan avaient laissé entendre que les deux camps entameraient des négociations cette semaine en N'Djamena au Tchad sur la libération des 219 Nicéens enlevés dans la ville de Chibok, mais ces discussions n'ont toujours pas démarré.
Lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La France va renforcer son dispositif militaire au Niger et intensifier son action au Mali. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant un responsable du ministère français des Affaires étrangères, sous couvert d'anonymat. L'objectif est de contrer la recrudescence d'opérations djihadistes et les trafics d'armes en provenance de Libye. L'armée française prévoit donc l'installation d'une base à Madama, dans l'extrême nord du Niger. Elle comptera environ 50 militaires français. Cette région est un lieu de passage de la contrebande. Des hommes, de la drogue et des armes sont ainsi acheminés vers plusieurs pays du Sahel.
République démocratique du Congo, les forces démocratiques alliées sont dans le collimateur de la MONUSCO. La mission onusienne promet des actions militaires contre ces rebelles ougandais accusés de massacres dans l'est de la RDC, notamment à Oicha et Rengeti. 80 personnes ont été assassinées en moins de 15 jours. L'ONU n'a cependant pas précisé les dates de ces futures opérations.
Et en RDC toujours, le député d'opposition fidèle Balala Wandou est arrivé jeudi soir à Kinshasa. C'est ce qu'a constaté l'AFP. Il est soupçonné de subornation de témoins. La Cour pénale internationale lui a accordé une mise en liberté provisoire mardi. Fidel Babala Wandou a été accueilli par des membres du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président de la RDC, jugé par la CPI pour crimes contre l'humanité.
En Tunisie, un agent des forces de l'ordre a été tué dans un échange de tirs avec des éléments armés près de Tunis. Le pays doit tenir des élections législatives dimanche. Idriss Fall.
Mohamed Ali Haroui, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a confirmé la mort d'un agent des forces de sécurité dans des échanges de tirs avec des occupants d'une maison à Oued El Hil, près de Tunis. Les forces de sécurité avaient assiégé cette maison où s'était retranché un groupe armé. Des heurts ont également opposé la police à deux éléments qualifiés de terroristes à Kébili, à quelques 500 km au sud de Tunis. Le gardien d'une société a été tué. Ces violences interviennent avant les législatives de dimanche prochain. Il y a plus de 1230 listes dans 33 circonscriptions, dont 6 pour les Tunisiens de l'extérieur. Face aux islamistes d'Ennahda, vainqueurs du scrutin en 2011, les autres partis restent divisés. Ce vote est crucial pour doter le pays d'institutions pérennes, près de 4 ans après la révolte populaire de 2011.
Burkina Faso, l'annonce d'un référendum sur la constitution continue de susciter des réactions. Après l'opposition burkinabé, c'est au tour de la France de critiquer le processus qui pourrait permettre au président Blaise Compaoré de briguer un mandat supplémentaire en 2015. La France réitère son attachement au respect des principes définis par l'Union africaine sur les changements constitutionnels visant à permettre aux dirigeants de se maintenir au pouvoir, souligne le ministère français des Affaires étrangères. Le président François Hollande aurait même écrit au président Compaoré pour faire valoir sa position.
Le président soudanais appelle l'opposition à participer au dialogue national. Le dialogue est la seule solution au problème de partage du pouvoir, a lancé le président soudanais qui se prépare pour la présidentielle de 2015. Omar Hassan el-Béchir est au pouvoir depuis plus de 25 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le Premier ministre canadien Stephen Harper a appelé ses compatriotes à la vigilance, mais aussi à la fermeté suite à la mort de deux soldats dans deux attaques cette semaine à Montréal et Ottawa. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chef du gouvernement canadien s'est adressé aujourd'hui au Parlement fédéral à Ottawa. Un individu armé avait tiré plusieurs coups de feu dans l'immeuble hier après avoir abattu un soldat en faction devant un monument voisin.
We will not be intimidated. We will be vigilant, but we will not run scared. We will be prudent, but we will not panic.
Nous n'allons pas être intimidés, nous serons vigilants, mais pas effrayés. Nous serons prudents, mais nous ne céderons pas à la panique, a déclaré le Premier ministre Harper aujourd'hui au Parlement. L'assaillant d'hier a été identifié comme étant Michael Zehaf Bibo, un homme de 32 ans, précédemment emprisonné pour stupéfiants et cambriolage, et récemment converti à l'islam. Pour les autorités canadiennes, c'était un suspect à haut risque et elles avaient révoqué son passeport pour l'empêcher de rejoindre les groupes djihadistes à l'étranger. En début de semaine, un homme identifié par le Premier ministre Harper comme un converti à l'islam radical a foncé avec son véhicule sur deux soldats près de Montréal, tuant l'un. Dans un entretien téléphonique avec M. Harper, hier, le président Obama a souligné la nécessité pour leurs deux pays de poursuivre leur coopération contre le terrorisme.
Une série d'attentats violents dans la province du Baloutchistan au Pakistan a fait plus d'une dizaine de morts aujourd'hui, rapportent les autorités. Parmi les victimes, 8 musulmans chiites ont été tués à Quetta, la capitale provinciale, quand des hommes ont ouvert le feu sur un bus. Un peu plus tard, une explosion suicide a fait un mort et plusieurs blessés. Cette explosion visait le chef d'un parti religieux allié des talibans, Maulana Fazlur Rehman.
Les djihadistes du groupe État islamique ont gagné du terrain à l'ouest de Bagdad jeudi, aujourd'hui, s'emparant d'une nouvelle zone de la province d'Al-Anbar, quasiment entièrement sous leur coupe, selon des responsables. L'État islamique, qui a lancé le 9 juin une offensive en Irak et s'est emparé depuis de pans entiers du territoire, y a capturé, puis exécuté, des centaines de membres des forces de l'ordre. Des responsables et des chefs de tribus sunnites ont appelé la coalition internationale à accroître son engagement en envoyant des troupes au sol. Mais le premier ministre irakien Haïdar al-Abdi s'oppose à la présence de forces étrangères sur le territoire irakien.
Des activistes syriens avancent un bilan de 553 morts pour les frappes aériennes dirigées par les États-Unis, en majeure partie contre les militants de l'État islamique et le front al-Nusra, un allié d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 464 djihadistes et 32 civils ont péri dans les bombardements. Depuis le 22 septembre, la coalition a lancé plus de 200 frappes en Syrie dans le cadre d'une campagne élargie visant à bloquer la progression de l'État islamique en Irak.
En Israël, forte présence policière ce jeudi à Jérusalem au lendemain d'un attentat perpétré par un Palestinien. Un bébé israélien a été tué et 6 autres personnes ont été blessées dans cette attaque. La seconde menée par un Palestinien au volant d'un véhicule en moins de 3 mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi avec colère, avertissant que toute tentative d'attaquer des habitants de Jérusalem sera sévèrement punie. Jérusalem unifiée était et restera la capitale d'Israël pour l'éternité, a ajouté M. Netanyahou dans un communiqué promettant d'y ramener le calme et la sécurité.
Côté palestinien, le négociateur Saeb Erekat a déclaré que le statu quo ne sera plus toléré et que, passé le mois de novembre, les Palestiniens vont prendre des initiatives diplomatiques pour la reconnaissance de leur État. Il revendique aussi Jérusalem comme la capitale de cet État. À Washington, la police a arrêté un jeune homme de 23 ans qui a escaladé la clôture de la Maison-Blanche. Le père du jeune homme, d'origine nigériane, a dit que ce dernier souffre de troubles mentaux. C'est le deuxième incident du genre depuis le mois de septembre.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission.
Parlons de mariage homosexuel pour commencer. C'est pas la priorité des Africains, a déclaré l'archevêque de Bangui, qui revient du synode sur la famille qui a eu lieu au Vatican. Dieudonné Nzapalainga explique à la Voix de l'Amérique les débats qui ont agité le Vatican.
Le synode de Rome s'est déroulé dans un état de fraternité, de sérénité, je peux dire qu'une convivialité, et on a senti la présence de l'Esprit Saint parmi nous, parce que le Saint-Père, simplement, humblement, était avec nous, et il a posé un problème existentiel qui concerne la famille. Chaque évêque de chaque continent présentait ses expériences. L'Évangile, ça veut dire le Christ a un message à nous dire, et nous devons écouter le message que le Christ nous dit, et il nous parle à travers les responsables de l'Église, qu'on appelle le magistère, et nous devons aussi entendre cela. Et ça a été cet exercice que nous avons fait pendant 2 semaines où, dans la fraternité, nous avons discuté sereinement de ces problèmes-là, avec aussi des moments où il y a des différends de part et d'autre, mais l'essentiel était de vivre la communion.
Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a des divisions, peut-être régionales, continentales, concernant la question du mariage homosexuel ?
Aujourd'hui, je peux vous dire que d'un continent à l'autre, certains problèmes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, si vous venez dans un pays qui s'appelle la République centrafricaine, le problème numéro 1, c'est pas le mariage homosexuel. C'est plutôt la question de réconciliation, du pardon. Donc ici, notre problématique est différente. Et aussi, dans un autre pays, en Europe ou ailleurs, il y a d'autres problématiques qui se posent. Mais l'essentiel, l'important, c'est pour nous, c'est de nous écouter les uns les autres. Nous partons à un synode avec des convictions que nous partageons en tenant compte des réalités, des expériences que vivent les uns les autres, et nous devons à la fin sortir avec un esprit de communion.
Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites le mariage homosexuel, la question de l'ordination des femmes, c'est pas la priorité, en tout cas pour les Africains?
Je l'ai dit, pour le moment, si vous demandez ça aux chrétiens, c'est pas la priorité. Par contre, vous allez dans une autre église ailleurs, les gens, ça va être la priorité. Et je dois écouter, entendre aussi cela.
Les Africains ont été beaucoup choqués par ce document intermédiaire qui avait filtré avant la fin du synode, qui reconnaissait notamment des qualités aux homosexuels. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense que tout homme créé à l'image de Dieu a des qualités, a des compétences. Il ne faudrait pas confondre. Il y a ce qu'on appelle une orientation et ce qu'on appelle une pratique. Quelqu'un qui est, il y a une orientation, qui suis-je, comme disait le pape, pour le condamner et tout, pour dire quelque chose. Et nous devons laisser aussi la place à Dieu à ce niveau-là. Par contre, les uns les autres ne doivent pas nous obliger à rentrer dans la dynamique de ce que vivent ou ce que font d'autres personnes. Il faut respecter l'anthropologie chrétienne qui dit que l'homme et la femme, dans le processus de la communion, de la complémentarité, vivent ensemble. Et si quelqu'un sent qu'il y a une autre orientation, eh bien, c'est la liberté des enfants de Dieu. Mais nous ne l'encourageons pas cette pratique-là.
Dieudonné Nzapalainga, joint par Nicolas Pinot.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Toujours pas de gouvernement de cohésion nationale en République démocratique du Congo, un an après la promesse faite par le président Joseph Kabila lors d'un forum national. De Kinshasa, une correspondance de Dominique Dinanga, notre station partenaire Top Congo FM.
Dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile.
C'était la promesse faite par le président Joseph Kabila il y a un an à l'issue des concertations nationales, forum qui avait regroupé les délégués de la majorité au pouvoir, une frange de l'opposition et la société civile. Une année après, le gouvernement de cohésion nationale n'est toujours pas formé. Les partis d'opposition qui avaient boycotté ces travaux, en tête l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, avaient prédit l'échec de ces discussions. Joseph Kapika est porte-parole de l'UDPS.
L'UDPS les avait qualifiés d'une rencontre entre les laboureurs et ses enfants. Je crois que c'est même pire que cela parce qu'aucune des résolutions prises par ceux qui avaient participé là-bas n'a été exécutée. Leur fameux gouvernement qui allait sceller la cohésion nationale n'a pas vu le jour. C'est le mécontentement dans les rangs de ceux qui avaient pris part à ces fameuses concertations-là. J'apprends même qu'il y a des gens qui attendaient être ministres qui ont fait des AVC.
Pour Jean-Pierre Lisanga Bonganga du Front Populaire, participant aux concertations nationales, il faut aller vers un dialogue inclusif avant la formation d'un gouvernement de cohésion nationale.
Nous avons compris qu'aujourd'hui, une année après, la nécessité aujourd'hui c'est de lancer le dialogue qui doit réunir tous les Congolais. Donc cette affaire d'un gouvernement de cohésion et de ceci s'est dépassée. Cette affaire est tellement aujourd'hui dépassée que ça ne sert à rien. La preuve est qu'au sein même de la majorité, il n'y a pas de cohésion. On va faire ce gouvernement comment? Au niveau de l'opposition, même ceux qui étaient aux concertations demandent le dialogue. Alors à quoi ça servirait?
À la majorité présidentielle, on est formel. Le chef de l'État respectera sa promesse, celle de former un gouvernement de cohésion nationale, a dit récemment à Top Congo FM, Obe Minako, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle.
La République aura un gouvernement de cohésion national et ce gouvernement va nécessairement mettre les bouchées doubles pour rattraper ce temps, étant donné que pour y arriver, compte tenu du contexte complexe de la République et compte tenu des enjeux futurs, il fallait y aller calmement avec méthode.
Depuis Kinshasa, Dominique Dinanga, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Soleil FM, fréquence verte, à Butembo, province orientale. La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga. La Voix de l'Amérique en RDC sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Retour ce soir sur les fusillades de cette semaine qui ont coûté la vie à deux soldats au Canada, l'un abattu hier à Ottawa par un tueur suspecté de liens avec des groupes islamistes. En dehors de quelques incidents, comme la tuerie de l'école polytechnique de Montréal en 1989, dans laquelle 14 femmes avaient été tuées par un individu qui en voulait apparemment aux femmes, c'est la première fois que le Canada enregistre les incidents liés au djihadisme international, Morgan.
Oui, donc pour un éclairage, Timothée Donangmai a joint à Montréal Kanyori Chika, président et éditeur du magazine Transatlantique.
La plupart des gens se disaient que tôt ou tard, ça allait probablement arriver. On le sentait déjà, que depuis un certain temps, non seulement puisque le Canada, pour le moment, il est quand même dans la coalition, ça veut dire que qui s'attaque aux djihadistes, surtout en Irak, puisque pour le moment, il n'est pas directement engagé en Syrie. Mais on savait depuis longtemps, puisqu'il y a aussi le même problème qui se pose presque dans tous les pays occidentaux actuellement. Il y a d'abord les jeunes issus de l'immigration, qui ont des origines, disons, du monde arabe ou autre, et qui se sentent un peu marginalisés, et puis qui quelquefois arrivent à convaincre d'autres jeunes qu'on pourrait avoir de salut dans cette leur vente, quelques vendeurs d'illusions comme les islamistes. Vous savez, quand les gens sont un peu dépassés, ils sont prêts à n'importe quoi. Et c'est ce qu'on sent que de plus en plus, ce message arrive ici, surtout grâce à Internet.
Les services de sécurité canadiens avaient semblé jusqu'ici maîtriser la situation, surveiller les suspects. Est-ce que cette situation leur échappe un peu aujourd'hui?
Quand ça vient de l'intérieur, il y a beaucoup de jeunes qui finalement, comme celui qui a attaqué le Parlement hier, lui était très peu, par exemple, sur Internet, même s'il avait d'autres choses. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on pouvait difficilement identifier avant ça. Alors que le premier qui a attaqué des soldats il y a quelques jours, au moins on l'avait déjà saisi son passeport. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été sur Internet, qui faisait l'apologie du djihadisme, mais on l'avait même suivi. Mais à ce moment, on pensait, il avait fait semblant qu'il était repenti, quoi. Et puis à ce moment, on l'avait délaissé un tout petit peu et il en a profité finalement pour faire des choses. Tout le monde le sait aujourd'hui que même aux États-Unis, ça a souvent été difficile, même si on arrive quelquefois à en déjouer. Mais il y en a toujours quelques-uns qui passent dans le mal du filet. On ne peut pas être sûr de contrôler ça complètement.
Kanyori Chika, président et éditeur du magazine Transatlantique, publié à Montréal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis ont fait plus de 500 morts dans les rangs des djihadistes de l'État islamique durant le mois écoulé. Cependant, ce n'est pas suffisant pour repousser complètement ces militants sunnites qui gagnent du terrain dans l'ouest de l'Irak et assiègent une ville stratégique dans le nord de la Syrie. Selon l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, la ville de Kobané attend encore les renforts des Kurdes irakiens. Écoutons le compte-rendu de Scott Bob.
On ne sait pas quel jour exactement ces 200 Peshmerga vont arriver, mais il paraît que ce serait assez vite, assez rapide. L'annonce a été faite seulement mercredi et déjà on les attend. La réaction parmi les réfugiés et les personnels, les gens qui restent à Kobané, c'est un accueil, vraiment, c'est un soulagement pour ces milliers de personnes qui ont presque perdu leur ville et ont été menacées de la mort, d'exécution et toutes sortes de brutalités. Un monsieur avec qui j'ai eu l'honneur de parler a dit « N'importe qui est le bienvenu pour nous aider, soit kurde, soit d'autre part. » La bataille des Kurdes à Kobané n'est pas seulement pour les Kurdes, mais c'est contre le terrorisme, c'est contre la brutalité, la sauvagerie. Donc, n'importe qui dans le monde serait bienvenu.
Quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui?
Eh bien, dans la nuit de mercredi à jeudi aujourd'hui, et ce matin même, il y a eu des combats assez lourds avec des mortiers, des mitrailleuses à grande dimension, disons, assez lourde. Et on pense que peut-être l'État islamiste, leurs militants, essaient de gagner le plus de terrain que possible avant l'arrivée des Peshmerga. Peut-être l'autre est qu'il y a eu une attaque sur une plaine en dehors de la ville où, on dit, a été déposé les renforts des Américains venus d'Irak. Et alors peut-être ils essaient aussi de prendre possession, de contrôler cette grande plaine pour empêcher que ces armes et ces médicaments arrivent aux Kurdes dans la ville. On a eu l'annonce aussi d'un organisme en Angleterre qui fait beaucoup de sondages et a beaucoup de contacts, l'Observatoire pour la Syrie, qui dit que les frappes américaines ont tué plus de 500 militants de l'État islamiste et peut-être 32 civils, c'est-à-dire ces frappes des dernières semaines.
Ça fait plus d'un mois que se poursuit cette bataille à Kobani, à la frontière turque. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de déplacés. Comment les civils vivent cette situation, Scott Bob?
Les civils de la région au sud de Turquie ont été très, très accueillants. La petite ville de Suruç, qui est à 10 km de la frontière, la première ville si on traverse de Kobani, ville de 30 000 personnes, accueille plus de 30 000 réfugiés. Donc, ils se trouvent un peu débordés. Il y a quand même une certaine inquiétude que si ça dure longtemps, qu'est-ce que ça va faire avec une ville qui n'a vraiment pas d'industrie, qui vit un peu de l'agriculture, comme dans d'autres communautés en Turquie qui ont été envahies comme de cette manière. Il y a quand même une grande inquiétude.
Voilà, c'était Scott Bob, joint en Turquie, près de la ville de Kobani.
En résumé, ce soir, l'actualité sportive avec Timothée Donangmaï. Salut Tim.
Bonsoir Gabi.
En football, l'Algérie grimpe au classement FIFA.
Eh oui, première nation continentale à la 15e place mondiale, l'Algérie atteint le meilleur classement de son histoire. Victorieuse de ses 4 premiers matchs des poules éliminatoires de la CAN 2015, l'Algérie gagne ainsi 5 places. En revanche, la Côte d'Ivoire, 25e, perd 3 places. À noter la belle progression du Cap-Vert, 33e, plus 8 places. La plus forte hausse au profit du Togo, désormais 52e mondial. Les Éperviers ont grimpé de 73 places en un mois.
Et quelques résultats de la troisième journée de la Ligue Europa, non?
Eh oui, Standard Liège, FC Séville 0-0. 0-0 également entre Lille et Everton. Young Boys bat Naples 2-0. Dynamo Minsk et Guingamp en France, match nul. PAOK Salonique de Grèce 1, Fiorentina 0. Nous avons aussi Trabzonspor de Turquie 2, Lokeren de Belgique 0. Et depuis 20h30 universel, Villarreal Zurich, un but partout.
Ça va commencer
en
tout à l'heure.
Période. Et non, ça a déjà commencé.
Ah bon?
Oui. Et Torino en Italie et HJK Helsinki 1-0 en première période. Partizan Belgrade, Beşiktaş 0-1 pour Beşiktaş, Salzbourg et Dinamo Zagreb 2-0 pour Salzbourg. Panathinaikos PSV Eindhoven 0-1 pour Eindhoven. Inter Milan et Saint-Etienne 0-0 en première période.
Donc ils ont commencé quelques minutes avant 20h, temps universel. La Ligue des champions, c'était hier et Pierre-Emerick Aubameyang est rentré dans l'histoire, Tim.
Et oui, l'attaquant gabonais qui a inscrit un doublé lors de la victoire du Borussia Dortmund sur le terrain de Galatasaray 0-4 est devenu donc le premier gabonais à réussir cette performance en Ligue des champions.
Merci, Timothée Donangmaï.
C'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Alors vous adorez Beyoncé, ne le prenez pas mal. Vous êtes donc susceptible d'avoir une intelligence inférieure à la moyenne, si l'on en croit le site musicthatmakesyoudumb.com. Les fans de Pretty Hurt, Halo ou Crazy in Love ont un QI ou quotient intellectuel moins élevé que ceux qui écoutent la 5e symphonie de Beethoven par exemple. Même sanction pour les inconditionnels de Lil Wayne. Ils ne font pas le poids hein, face à ceux de Radiohead ou U2. On écoute U2 dans Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground.
Pour ce projet, Virgil Griffith a utilisé une méthodologie précise. Dans un premier temps, Roger, il s'est basé sur une application Facebook déterminant les 10 artistes les plus entendus dans chaque campus des États-Unis.
Oui, Morgan, Virgil Fifth a ensuite couplé ces données aux résultats du SAT, Reasoning Test, un examen standardisé à l'échelle nationale et réalisé pour l'admission aux universités ici aux États-Unis. Ainsi, il apparaît que les adorateurs du rock et des musiques indie Damien Rice par exemple, Snow Patrol, Soft John Stevens, sont plus vifs que ceux qui écoutent de la pop ou du hip-hop comme Jay-Z ou Kanye West. Bien entendu, l'auteur de cette analyse précise que corrélation ne signifie pas causalité. C'est à méditer, Morgane.
Beautiful Day. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Morgan.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
C'est la fin de cette édition, Morgan.
Oui, merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde.
Avec Franklin Sidrac.
Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, Morgan Guiriec.
Et chez Romain Dorcy.
À demain.